Voici Dan Bigra.
Alors, je rappelle qu'on est... c'est toujours le même sujet, hein, le campement des sans-abri sur la rue Notre-Dame. Je vais le prendre en exemple parce que c'est pas effectivement un phénomène qui va rapetisser, ça va grandir et vite. Je vous demande comment est-ce qu'on prévoit s'occuper d'eux, mais comment est-ce que vous les voyez-vous quand vous passez dans la rue? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous leur parlez? Donc, on est toujours au téléphone avec l'abbé Claude Paradis, qui est le prêtre des itinérants et qui a le grand titre de votre itinérance. Je trouve ça génial, comment on vous appelle, abbé Claude.
Oui.
En France, on a l'abbé Pierre, ici, on a l'abbé Claude. On reçoit aussi Mario Gagnon, qui est directeur de l'organisme Point de repère à Québec. Je vais vous dire pourquoi. J'ai donné une conférence à un moment donné à Chicoutimi, et puis je me suis fait reprocher de parler, oui, des jeunes, de parler de l'itinérance, mais jamais de parler des régions. Je le fais maintenant. Par exemple, l'intervenant à Chicoutimi va pas faire comme on fonctionne ici. Ici, les itinérants viennent, la plupart, pas tous, mais vers les ressources, comme le refuge, comme la maison du père, comme bon toutes ces ressources-là. Si tu es dans la rue à Jonquière, tu peux pas te rendre à Chicoutimi. Donc, ça prend des intervenants avec des autos pour aller chercher. L'itinérance, c'est pas nécessairement dans la rue. C'est des gens qui vivent dans leur auto, même l'hiver, et qu'on retrouve des fois le matin mort de froid. C'est des gens qui squattent des chalets d'été, donc pas chauffés, qu'on retrouve souvent au printemps mort de froid aussi. C'est d'autres, mais tout importe, c'est la même importance, c'est les mêmes êtres humains, ça prend juste d'autres petites méthodes. Donc, je voulais parler à des organismes de Québec, et l'organisme Point de repère fait beaucoup à Québec, donc je répète qu'on a son directeur général, Mario Gagnon. Bonjour, M. Gagnon.
Salut.
Est-ce que vous constatez la nouvelle itinérance, celle qui est peut-être due à des gens qui perdent leur job et puis qui ont simplement pas trouvé de loyer?
Bien, on constate ça parce que les loyers à Québec, contrairement à ce qu'on pense, sont très, très chers aussi. Puis c'est sûr que la COVID, il y a du monde qui ont perdu le job. Donc, on s'est retrouvé avec, en plus, ces gens-là. Mais tu sais, il y avait déjà pas mal d'itinérance l'année passée, à la même période. On était avec des problèmes de santé mentale et d'itinérance de façon assez importante. Fait que la COVID, c'est venu nous frapper plein fouet.
Je comprends. Puis les situations de santé mentale, je veux juste expliquer à du monde, parce qu'il y a des préjugés là-dessus un peu. Oui, ça peut être causé par de la prise de drogue, mais souvent, la prise de drogue est la seule solution. C'est la solution des désespérés pour essayer de soigner un désespoir. C'est un médicament. C'est une forme, on s'auto-médicamente avec quelque chose qui va au moins nous mettre un sourire en face, ne serait-ce que 3 secondes, parce que la vie est trop dure. Alors, les problèmes de santé mentale sont l'expression ultime de la souffrance. Alors, évidemment, quand tu te soignes avec de la drogue, ça va pas mieux. Mais vous constatez vraiment une augmentation à Québec?
Absolument. Puis surtout, une augmentation de la détresse des gens. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand ça chote dans le nez, excuse-moi l'expression, les organismes dans les premières phases de la COVID ont toutes formé leur milieu, ben on est resté sur le front avec le travail de rue, mais les gens n'avaient pas d'eau, n'avaient plus de bouffe, savaient plus quoi, n'avaient pas accès à l'information non plus de ce qui se passait. Donc, vu qu'il y avait une absence de commerce d'ouvert où on pouvait être posé, puis une absence de touristes, une absence de gens dits normaux qui travaillent toujours, ben toute l'économie devrait tomber aussi. Donc là, c'est sûr qu'ils sont devenus hyper visibles aussi. C'est venu nous frapper. Même nous autres qui étaient intervenants, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, puis c'est venu nous bouleverser là, à dire ben, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On a l'impression qu'on est un peu d'une image d'apocalypse où les gens l'étaient laissés à eux-mêmes.
Ça doit vous inquiéter pour l'avenir, là? Ne serait-ce que l'automne et l'hiver qui s'en vient, là, ça va juste grossir, ça.
C'est pas fait pour partir. On ne s'en pas sorti de ça du tout, hein, les gens. On a l'impression que la vie est reprenue normalement. Mais nous autres, écoute, on voit des situations de détresse où les gens, ben, écoute, s'organisent comme ils peuvent. Mais quand les gens, les besoins essentiels sont même pas comblés. Et là, les équipes de travail qui aussi sont fatiguées. Je lui lève mon chapeau à ma gang, mais tu sais, aussi sont fatiguées. La détresse, je veux dire, psychologiquement, on est fait fort, nous autres, de travailler avec les personnes qui consomment, qui sont vraiment en situation de vulnérabilité. Mais là, l'état de détresse, puis des organisations, puis que les besoins essentiels sont même pas comblés. Je te dirais que c'est dur aussi pour les équipes de travail. Donc, on vit tout notre stress personnel aussi là-dedans. Donc, non, je te dirais que, écoute, après tant d'expérience, je me rappelle d'une petite histoire avec une travailleuse de rue. Je me promenais sur la rue, puis j'en ai fait de la rue en mars. J'étais intervenant pendant 13 ans, puis où j'ai reviré de bord, j'ai dit, écoute, moi, on dirait que je suis complètement bouleversé par la situation.
Bien, c'est parce que non seulement vous avez le droit, mais vous n'avez pas le choix.
Non, c'est clair.
Et je le dis aussi pour les gens que, vous savez, il y a des gens qui passent devant les itinérants puis qui les regardent pas. Moi, je dis que c'est pas une solution. Y compris pour la personne qui... c'est à elle que je pense. Je pense même pas l'itinérant. Je pense à la personne qui refuse de regarder. Si vous savez où ne pas regarder, c'est parce que vous l'avez vu. Donc, le trauma est rentré. C'est difficile de regarder, de voir, de fréquenter de la misère. Mais l'ignorer, on se sent coupable après ça. Donc, juste un sourire, montrer au monde qu'ils existent, c'est quelque chose. Ceci dit, quand c'est notre milieu, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut absorber. Je le dis pour les policiers, je le dis pour un paquet de gens qui vivent dans la misère des autres. On s'entend?
Absolument. C'est un peu le reflet social de ce qu'on voit toujours, mais en même temps, là, c'est venu nous faire un portrait en grosse couleur, en 360 degrés, où on dit il y a vraiment des gens qui sont vraiment en situation de difficulté puis qui sont vulnérables à la pandémie aussi. Tu sais, on voit l'automne arriver. J'ai avec ma gang de Montréal hier, puis c'est, qu'est-ce qu'on fait à l'automne? Si ça revient, puis si on est préparé, on a un peu plus d'expérience, le choc va peut-être être moins brutal avec l'apparition d'une deuxième vague, mais ces gens-là sont déjà laissés pour compte. Donc, comment on va faire pour être capable d'accueillir ces gens-là? Puis, tu sais, on trouvait ça bénéfique que les gens puissent aller se camper à l'extérieur. Nous autres, on distribue des tentes parce qu'on comprenait que les gens avaient peur, puis il y avait peu d'informations. Puis, en même temps, les gens, il y en a qui veulent pas fréquenter les soupes populaires ou les centres d'hébergement. Puis aussi, c'est une grande logique de pas vouloir s'amoncer en proximité avec un paquet de monde. Donc, mais en même temps, il fallait développer une tolérance. On pensait vraiment que la situation de crise allait apporter cette ouverture-là de par la gestion ville, la gestion policière, de dire, écoute, là, on est dans une situation particulière. Il faut tolérer ces gens-là. Et la misère est là, mais il n'y a pas nécessairement, on n'a pas été capable de relever ce défi-là, je pense, de pouvoir faire face à aux différentes réalités qui vivent dans la vie.
Et au financement qui devrait aller avec les organismes. Merci beaucoup, M. Gagnon.
Ben, ça me fait plaisir.
Passez une belle journée, puis je vous souhaite un peu plus de bonheur aujourd'hui.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. C'est Mario Gagnon, qui est directeur général de l'organisme Point de repère. Et on a aussi Éric Boulay, qui est de la maison L'Aube-Rivière. Bonjour, M. Boulay.
Bonjour.
Alors, quelle est votre intervention auprès des sans-abri à Québec? On est toujours à Québec, là.
Alors, Mario, hein, que je considère presque comme mon collègue, hein, parce qu'on est sur les mêmes regroupements ensemble.
Oui.
Écoutez, moi, ça fait 22 ans que je suis à L'Aube-Rivière, d'abord comme intervenant, puis depuis une dizaine d'années comme directeur maintenant. Là. Et on a vraiment vu à Québec le phénomène de l'itinérance prendre de l'ampleur incroyablement. Là. De ma vite, là, présentement, là, je vois plein de gens qui squattent à l'îlot des Palais, derrière L'Aube-Rivière, et le matin quand on arrive, un peu partout de L'Aube-Rivière aussi. Alors, c'est un phénomène qui était prévisible parce que l'été passé, ça a commencé, puis au mois de janvier, on avait des rencontres avec la ville, les policiers, tout ça, pour dire, si on fait pas quelque chose cet été, ça va arriver. Et a survenu la COVID, qui finalement a amplifié, exacerbé un phénomène qui était déjà là, qui était déjà grandissant à Québec. C'est sûr que la ville grandit, le nombre de personnes à risque augmente. Alors, évidemment, hein, les grandes villes, c'est un phénomène de grandes villes, hein.
C'est un phénomène de grande ville. C'est-à-dire que la nouvelle itinérance avec le prix des loyers, c'est plus dans les grandes villes. Je vois les loyers monter un peu partout dans la province. Puis évidemment, le désespoir est partout avec la COVID, des gens qui perdent leur job et tout ça. Donc, il y a vraiment une nouvelle sorte d'itinérant qui se rajoute à ceux qu'on fréquentait déjà, qu'on connaissait déjà. Et qui sont, il y en a, tu sais, il y a des vieux de rue qui sont rendus des brouillards. Puis il y en a d'autres qui se débrouilleront toujours mal, mais les gens sont pas formés à la rue. C'est tellement plus dur que même la plus difficile des vies, même quand t'as un job dur, puis que c'est dur à la maison, la rue, c'est pire.
Absolument. Quand t'es dans la chronicité, là, à un moment donné, il vient un moment où tu développes les trucs de la rue, là, que j'appelle. Là. Alors, l'être humain s'adapte, hein, avec le temps. Alors, pour une nouvelle personne qui arrive dans la rue présentement, en raison de la crise ou non, c'est sûr que c'est très, très difficile. Moi, par rapport à mon collègue Mario, par contre, je dois dire que cet été, au contraire, nous, L'Aube-Rivière, au début de la crise, nous, on n'a jamais fermé. Jamais fermé. Je vous entendais parler de fermer 50 lits, là, 50% des lits à Montréal. Là.
Oui, moi, même le refuge, on l'a fait, nous.
C'est ça. Mais moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. on sait nous autres ce qu'on a dit au CIUS. Pas, ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont pas eu le choix pour maintenir les zones chaudes, les zones froides, etc.
Une population itinérante qui ont tous le COVID, là.
Exactement, c'est ça. Mais nous, ce qu'on a installé dès le départ, c'est dire au CIUS, on ne sera pas en mesure, dès que quelqu'un a des symptômes, tous ou la température ou quoi que ce soit, nous, la brouillard, on les prend pas, c'est certain, parce qu'on va infecter tout le monde. Alors, rapidement...
C'est la même chose qu'on s'est dit au refuge, mais la mairesse Plante a mis en place des endroits.
Exactement.
Ça fonctionne bien cet été.
Exactement.
Mais ils vont tous faire mal l'automne.
Ouais, c'est ça. Là, je sais pas où on en est à l'automne, là, à Québec, là, mais on a un centre de convalescence maintenant, opéré par le CIUS.
Ah oui.
Alors, on a eu une belle collaboration. Et nous, à l'Aubrière, en plus de ça, on a ouvert 15 lits supplémentaires depuis le début de l'été, là. 15 lits. Et ça, c'est une première à Québec. 15 lits qu'on va opérer 24 heures sur 24. Alors qu'avant, c'était, les services, c'était surtout le soir, la nuit, puis le matin, c'était fini, hein. Tu prends ton petit paquetage, puis tu t'en vas. Alors ça risque de faire une différence aussi, là. Il y a des belles choses qui se mettent en place aussi.
Bon, on va espérer pour le mieux. Merci beaucoup, M. Boulay. Passez une belle journée. C'était Éric Boulay qui est directeur de la Maison Lobrivière. On va prendre un appel tout de suite. Jean-François. Salut, Jean-François.
Bonjour, Dan. Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Moi, je voudrais raconter un peu mon histoire parce que j'ai un parcours un peu atypique, un peu comme... C'est-à-dire, j'ai été placé à famille d'accueil à 13 ans. Mes parents voulaient plus de moi. J'en ai bien sorti. J'ai été en foyer de groupe, j'ai été en appartement supervisé à 15 ans.
Oui.
À 17 ans, mon père a décidé de me reprendre. Trois semaines après, il me mettait dehors parce que sa blonde ne voulait pas de moi. Et là, ça en est suivi un peu de tour d'itinérance un petit peu. J'ai fait les auberges du cœur à Ville-et-Mars, à rue Wolfe, à Ville-Saint-Laurent. J'ai fait ça pendant presque trois ans. J'ai eu des amis qui ont pris de la drogue. Je ne suis pas allé jusque-là. Je me suis plus lancé dans les études. Je me suis accoté à fond dans les études, même si j'étais dans les auberges du cœur, je les faisais pareil. Puis aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai une maison, je viens de terminer l'année passée une maîtrise en éducation. J'ai un bon emploi, je travaille dans une commission scolaire. Et puis, il y a moyen de s'en sortir. Il faut que les gens...
Jean-François, j'aime beaucoup ce que tu me racontes. Excuse-moi de te couper, je vais te laisser parler. Mais ça démontre une chose, tout le monde, c'est que l'itinérance, c'est pas un état, c'est une étape. C'est juste ça dans la vie. Il y en a pour qui ça se prolonge, mais la plupart, nous autres, de nos jeunes, on les revoit plus parce qu'ils se créent des vies, puis je les retrouve en homme plus tard. Puis là, donc toi, je te retrouve en homme, mais en père de famille, puis bien organisé, puis tout ça. C'est toujours, moi, ça me touche beaucoup parce que les jeunes qui passent par le refuge, on les voit pas. C'est pas comme un secondaire. Il y a pas de prom night, puis il y a pas de party de fin d'année ou de son. On va se parler les anciens. Il y a pas de ça. C'est une période souffrante de vos vies. Puis généralement, vous aimez pas trop y revenir, ce que je comprends très bien. Alors, c'est pas toujours.
On sort de là avec une honte. On n'ose pas revenir et dire merci à ces gens-là qui nous ont aidés, que ce soit le refuge, que ce soit les auberges du cœur, parce qu'on a une honte du parcours qu'on a fait. Et là, j'ai la boule qui monte, là. Mais effectivement, si j'avais mieux été accompagné par mes parents, ça aurait été un parcours différent. Pas que je regrette le parcours que j'ai. Ça m'a forgé. Ça m'a forgé en tant que comme. En tant que père.
Oui, mais il y a d'autres moyens d'apprendre aussi. T'as très bien appris de ça, mais ce qu'on a, on appelle ça carrément la résilience. Moi, c'est pour ça que j'aime être au refuge beaucoup, c'est voir tous les jeunes qui sont la résilience. Vous la connaissez, vous savez ce que c'est. Ça va prendre une fois 20, 30, 50, mais vous allez vous en sortir à un moment donné. Faut avoir une solide tête dure puis le désir d'être heureux puis de se faire une belle vie, même quand on est très, très, très magané. C'est beaucoup plus facile à faire quand on souffre moins, évidemment. Essayer de se rendre heureux, là, je fais un pléonasme volontaire. Quand t'es dans la marde, quand t'es dans la rue, quand t'es dans la souffrance tous les jours, quand t'as honte de toi, t'as dit ça, la résilience, ça rime avec fierté. Fait que t'as de la honte d'un côté, puis t'as de la fierté de l'autre de t'en sortir. Moi, je retiendrais juste la fierté. Je sais que c'est dur à ressentir quand on est dans une partie très, très malheureuse de notre vie. Mais moi, je vais retenir ton exemple, Jean-François, comme quelqu'un dont il faut extrêmement être fier, parce que c'est pas marqué dans ton front que t'es un ancien de la rue, tu comprends? C'est pas marqué dans mon front non plus, c'est pas marqué dans le front de personne, mais c'est toutes des gens qui se refont des vies, bien, moins bien, plus facilement, plus difficilement, tous les chemins de vie existent, mais on espère qu'ils mènent tout à des belles histoires comme toi. Merci beaucoup, Jean-François.
J'aimerais juste dire, si oui, tu me permets, Dan, aux gens qui sont dans la rue, il y a moyen de s'en sortir. Accotez-vous sur des intervenants qui vont vous aider, puis vous allez vous en sortir si vous le voulez.
Oui, puis tenez-vous avec du monde qui a du cœur. C'est toujours oui, ça, c'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça le gros plus. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, passe une belle journée. Je reviens avec notre itinérance, c'est-à-dire l'abbé Claude Paradis. Vous êtes toujours là?
Oui, toujours.
Oui, bonjour, vous êtes patient, vous avez entendu tout ce
qu'il y a. Vous savez qu'à Montréal, on a un nouveau phénomène aussi. Hein? Je m'explique. Disons, le jeune père de famille qui est au salaire minimum.
Oui.
Qui a une femme et des enfants. Oui. Et la dame reste à la maison parce qu'elles n'ont pas le moyen de payer des garderies. Oui. Alors, le monsieur, les deux dernières semaines du mois ou la dernière semaine du mois, va habiter à la maison du père pour que la femme et les enfants aient de quoi se nourrir pour la fin du mois. Alors, on en est rendu là aussi, là. Ouais. Alors, l'itinérance, ça va de loin, hein?
Oui, ça va de loin, puis c'est l'endroit de souffrance, puis c'est l'endroit aussi où on voit de la résilience. Ça nous remonte le moral, ça.
Oui, oui, oui.
La résilience est forte. Je voudrais, juste il nous reste quelques secondes avant ça, qu'on parle de pistes de solutions.
Ben moi, je souhaite, ça fait longtemps que j'ai le désir, on dit que Montréal, c'est l'endroit où il y a le 1000 clochers. Pourquoi qu'on n'ouvrirait pas des églises? Moi, ça me paraît aberrant qu'on ne le fasse pas.
Oui, la
moi,
plupart sont,
donne,
la plupart
moi,
sont
donne
vides.
Une église, ben c'est ça.
Les sous-sols d'église, en plus.
Ben,
le refuge, où est-ce que vous pensez qu'il a été pendant quasiment
oui,
20 ans? Il y a un sous-sol d'église?
Oui, oui, oui.
Ah oui. Alors là, on a un abbé qui fait dire d'ouvrir les églises. C'est une excellente idée. On va fermer les hôtels, on va fermer les ressources qu'on a ouvertes pour l'été. On va fermer l'aréna Maurice Richard, on va fermer Camillien Houd. À ce moment-là, il va falloir qu'il y ait quelque part. Oui, les églises, les sous-sols d'église.
Exactement. Pourquoi pas?
C'est une bonne piste. Oui, absolument.
On dit qu'il y a mille clochers à Montréal.
Ben oui, il faut que les clochers viennent avec du personnel, par exemple. Ça prend du monde pour aider.
Exactement. Oui, c'est ça.
Ben, les gens comme vous, Monsieur l'abbé, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bienvenue, merci à vous.
Très gentil, puis bonne chance, votre itinérance. Je vais retenir le terme, ça, je trouve ça fantastique. Merci beaucoup.
Okay.
Au revoir, Monsieur Paradis.
Bienvenue.
C'est l'abbé Claude Paradis, qui est le prêtre des itinérants. Et nous, on vous revient tout de suite après la pause avec Jean-Luc Mongrain.